administrateurs de l'orchestre, et j'ai 21 musiciens qui sont là parmi nous.
En tout cas, Maître Foster, je pense qu'après cette longue période à la tête de cet orchestre, a beaucoup de choses à nous raconter. Et je le remercie de tout cœur d'être là avec nous ce soir aujourd'hui.
Avec plaisir, un honneur pour moi.
Bien, Madame la Directrice, Monsieur l'Administrateur, Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous avons effectivement le grand honneur de recevoir Maître Foster aujourd'hui et évidemment l'essentiel de cette séance sera consacré à son interview, à collecter ses souvenirs. Cela se fera en présence de musiciens, d'anciens musiciens de l'orchestre qui ont participé à l'orchestre sous sa direction, Jacques Perron ici, Elena Brial qui est là-bas, et puis je salue également la présence de Julien Bourgeois qui est ici, mais qui a été engagé postérieurement à l'arrivée de Laurence Foster. Ah, mais bien sûr, mais absolument, mais voilà, qui pourra apporter lui aussi son témoignage de sa présence à l'orchestre. Alors, mes amis, pour ceux qui ne sont pas habitués à nos séances, je rappelle que la séance d'aujourd'hui se situe dans une progression de 7 séances. Nous sommes à la 7e aujourd'hui, qui consistait à raconter l'histoire de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo depuis sa création en 1856. Et lors de la dernière séance, nous étions arrivés, puisque nous procédons chronologiquement, nous étions arrivés au début du XXe siècle. Alors, c'est là que je vais reprendre notre histoire et je vais aller très rapidement pour vous dire quels ont été les grands chefs qui ont dirigé depuis le début du XXe siècle jusqu'à l'arrivée de Laurence Foster. Et puis nous passerons trois quarts d'heure ensemble avec le maestro en le remerciant à nouveau d'être ici. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, que notre orchestre a été créé en 1856, à l'époque où Monte-Carlo commençait à se construire sous le règne de Charles III. C'était un petit orchestre au début, de 20 musiciens, mais qui jouait au cercle des étrangers. Les touristes commençaient à arriver. Il n'y avait pas encore le train à Monaco. C'était difficile de venir à cette époque-là à Monaco. On arrivait par bateau depuis Nice. On arrivait par un chemin plus ou moins carrossable depuis Menton, et c'était tout. Mais Charles III avait décidé de transformer sa principauté et de créer Monte-Carlo avec le casino, avec l'hôtel de Paris, et ça a été le grand essor que nous connaissons, accompagné par l'orchestre, par ce petit orchestre au début, et qui au bout de 20 ans avait déjà 70 musiciens, et puis à la fin du 19e siècle, 100 musiciens. Les chefs d'orchestre successifs ont été d'abord Eusèbe Lucas, ensuite Romeo Accorsi, qui était le neveu de Donizetti, le grand compositeur, ensuite Arthur Steck, et nous voilà à la fin du 19e siècle, où trois personnages importants arrivent dans l'histoire musicale, l'histoire artistique de la principauté. Le premier de ces personnages, c'est Raoul Gainsbourg, qui a été pendant plus d'un demi-siècle l'extraordinaire directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et qui a utilisé, bien entendu, les services de l'orchestre symphonique. Le second a été le chef d'orchestre de cette époque-là, qui était Léon Géin. Léon Géin, qu'il faut rendre grandement hommage, qui a été pendant plus de 30 ans le chef d'orchestre de notre orchestre de Monte-Carlo. Et qui a vécu à l'époque des ballets russes, à l'époque de ce grand tournant du XXe siècle. Et je viens de citer les ballets russes, le troisième personnage important qui se trouve au début du XXe siècle dans l'histoire artistique de Monte-Carlo, c'est évidemment Serge de Diaghilev, le directeur des ballets russes. Eh bien, ces trois personnages ont fait vivre la vie musicale de Monte-Carlo avec une intensité considérable. Il y eut un quatrième personnage qui n'était pas, lui, musicien, mais qui a apporté tellement dans la vie artistique de Monte-Carlo, ce fut le prince Pierre de Polignac. Parce qu'en 1920, vous savez qu'il y a eu un grand problème dynastique dans la dynastie des Grimaldi. Le prince Louis II n'avait pas d'enfant officielle, et pour que la dynastie des Grimaldi continue, il avait été décidé par le prince Albert Ier de l'époque, qui était le père de Louis II, et le président de la République française, Raymond Poincaré, il avait été décidé de officialiser la fille naturelle que Louis II avait, la princesse Charlotte, et de lui faire épouser quelqu'un qui accepterait de prendre le nom de Grimaldi. Ainsi, la lignée des Grimaldi pourrait être pérennisée. Sans ça, ben, la lignée des Grimaldi s'arrêtait. Et ça aurait été vraiment un grand schisme dans l'histoire de Monte-Carlo. Donc Pierre de Polignac est arrivé épousant la princesse Charlotte, et Pierre de Polignac appartenait à une grande famille de mécènes, une grande famille d'artistes, amis de Marcel Proust. Je ne sais pas si certains ont lu, il y a une quinzaine de jours, j'ai publié dans Monaco Matin des lettres justement échangées entre Marcel Proust et Pierre de Polignac. Donc il appartenait à cette famille de mécènes à laquelle appartenait également la princesse Edmond de Polignac. Et qui était-elle, la princesse Edmond de Polignac? C'était la fille du richissime fabricant de machines à coudre Singer. Ça vous dit quelque chose, des machines à coudre Singer? Eh bien, sa fille Winaretta était monumentalement riche et elle épousa Edmond de Polignac, le cousin de Pierre de Polignac, et exerça une activité de mécène considérable. C'est elle en particulier, c'est pour elle que Ravel a composé la Pavane pour une infante défunte, qui sera au programme du concert de dimanche prochain, le concert Ravel donné par notre orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Donc voilà, le prince Pierre de Polignac, j'allais dire, s'établit dans la vie artistique et il fit venir quelqu'un qui a compté également, c'est une femme compositrice qui est Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, ben que vous avez, hein, on a connu Nadia Boulanger, on a connu l'importance de Nadia Boulanger dans l'histoire de la musique. Et donc c'est elle qui est devenue, comment dirais-je, j'allais dire la conseillère musicale du prince de Monaco. C'est elle qui organisa la musique pour les funérailles de Louis II. C'est elle qui organisa la musique pour le mariage, pour l'intronisation de Régnier III et également pour le mariage de Régnier III et de Grace Kelly. Voilà donc tous ces personnages qui ont été importants dans l'histoire de la musique monégasque. Alors, quels ont été les chefs d'orchestre qui se sont succédés à partir de ce moment-là? Eh bien, il y eut donc Léon Géin, je vous l'ai dit, qui, peu après la Première Guerre mondiale, mourut et fut remplacé par quelqu'un dont vous voyez le portrait ici, Paul Paret. Ce grand chef d'orchestre qui a été si important dans l'histoire de la vie de notre orchestre, qui est mort en 1979 à 93 ans. Hein, on le voyait encore sillonner les rues de Monte-Carlo. On le voyait aller faire du footing sur la grande corniche. Et il a dirigé jusqu'à un âge extrêmement avancé. Alors, il n'a pas été directeur depuis les années 1920 jusqu'aux années 1970. Non, il a été uniquement directeur officiel pendant quelques années. Mais il est revenu plusieurs fois diriger cet orchestre. Il a été en particulier aux affaires au moment de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été cet événement tragique pour le monde, bien entendu, et pour la principauté également. Il était à la fois ici à Monaco et directeur des concerts Colonne à Paris. Et il donna sa démission des concerts Colonne lorsque, en 1940, la loi juive interdisait de faire la joie anti-juive, interdisait de prendre des musiciens israélites au concert Colonne et avait obligé de débaptiser les concerts Colonne en raison de l'ascendance israélite de Colonne. Ça, il n'avait pas supporté ça, donc il était venu se replier à Marseille et où l'Orchestre national de France se trouvait pendant la guerre. Et là encore, les lois anti-juives le tracassaient vraiment. Et c'est là qu'il était revenu pendant la guerre à Monte-Carlo, où il avait engagé pas mal de musiciens juifs, justement, pour les protéger. Paul Paré. Mais je pense qu'on en parlera plus la fois prochaine, puisqu'il y aura, je crois, Philippe Bender, qui a été le flûtiste soliste de Paul Paré et qui viendra porter témoignage, comme aujourd'hui Maître Laurence Foster. Alors, après Paul Paré, eh bien, il y a eu d'autres chefs d'orchestre. Je pense à Henri Tomasi, hein, qui a été chef d'orchestre ici pendant 2-3 ans. Après, il y eut Louis Frémaux. Il lui est Frémaux, et là on est déjà en 1956, l'année du mariage du prince régné et de la princesse Grâce. Et Louis Frémaux a été pendant une dizaine d'années le directeur de cet orchestre. Il a commencé à enregistrer pas mal de disques, dont un disque avec Samson François qui est là ici, hein, des concertos de Chopin qui restent mémorables dans nos discothèques. J'ai aussi un disque du Requiem de Forêt aussi. Enfin, beaucoup de disques qui ont été enregistrés par Louis Frémaux, qui a été aussi le chef d'orchestre qui a créé avec le prince régné III, qui a créé les concerts du Palais Princier. Hein, c'est à cette époque-là, dans les années 50, que les fameux concerts du Palais Princier ont été créés par Louis Frémaux, donc. Après Louis Frémaux, eh bien, c'est à ce moment-là qu'est arrivé ce bel homme-là qui est par ici, qui a été Édouard Van Remortel. Regardez le beau visage d'Edouard Van Remortel. Il avait été renvoyé d'Amérique, je ne sais plus de quel orchestre, Cleveland, parce qu'il avait fait une coupe sombre, il avait renvoyé 40 musiciens. Donc on n'avait pas apprécié ça en Amérique, donc il était venu ici, à Monaco, mais il n'avait pas fait les mêmes ravages. Hein. Et c'est un chef d'orchestre, je me souviens, qui a enregistré également beaucoup de disques qui restent dans nos discothèques. Et après Edouard Van Remortel, eh bien, le passage d'Igor Markevitch, ce grand chef d'orchestre qui était Igor Markevitch, que beaucoup d'entre nous avons connu, avons approché avec un grand respect. Igor Markevitch était à la fois compositeur, qui était un chef d'orchestre, un pédagogue, il enseignait la direction d'orchestre. J'ai suivi moi-même des cours de direction d'orchestre avec Igor Markevitch ici, c'est un souvenir mémorable où il connaissait par cœur le Sacre du printemps. C'était un génie de la direction d'orchestre, c'est évident. Il appartenait aussi à l'histoire des ballets russes puisqu'il avait épousé la fille de Nijinsky. Nijinsky, vous savez, ce fameux danseur qui avait été le créateur du Sacre du printemps, qui avait été l'amant de Diaghilev, mais après avoir été l'amant de Diaghilev, il avait rompu avec Diaghilev, il s'était marié avec une femme. Diaghilev avait considéré ça comme une grande trahison, il avait rejeté des ballets russes. Et donc, avec cette femme, ils avaient une fille qui est devenue la femme d'Igor Markevitch. Mais peut-être là encore, nous parlerons d'Igor Markevitch lors de notre prochaine séance. Et ensuite, eh bien, après Igor Markevitch, il y a eu ce chef à la silhouette monumentale qui était Lovro von Matačić, que des musiciens qui sont ici dans la salle ont connu, qui a été un chef d'orchestre impressionnant, à la fois par sa stature, par ce qu'il a apporté. Il a également enregistré des disques. Vous avez ici l'image des couvertures de disques qu'il a enregistrées. Et après, Lovro von Matačić arriva dans l'histoire de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Laurence Foster. Et c'est à ce moment-là que d'ailleurs l'orchestre s'est appelé Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, parce qu'avant il s'appelait Orchestre national de l'Opéra à l'époque de Louis Frémaux, mais là il est devenu orchestre. Alors, maestro, vous allez prendre le micro, voilà, et vous allez nous expliquer comment vous êtes arrivé à l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo pour remplacer Lovro von Matačić.
Il y a les coïncidences qui se passent inattendu dans la vie, évidemment. D'abord, avant de répondre, est-ce que je me trompe ou non dans ma mémoire que Paul Paré n'a pas inauguré la salle ici?
Peut-être. Ben voilà, nous avons la réponse.
Oui. Oui, oui, j'étais.
Peut-être, oui.
Oui, oui, je pense que oui.
Ah oui, peut-être, oui, absolument.
Il était, j'ai assisté, il était encore super impressionnant.
Ah oui, oui, absolument.
Son âge,
oui.
Incroyable.
Oui.
Et comme je suis arrivé, une série de coïncidences, j'étais assistant dans les années 60 de Zubin Mehta à Los Angeles. Et en même temps, j'ai voulu toujours vivre ici dans le sud de la France. Excusez-moi, pas Monaco nécessairement, mais sud de la France. Et depuis ma jeunesse, parce que j'ai eu une aunt et un oncle qui étaient sauvés par les prêtres à Nîmes, qui ont vécu rue d'Alpozo à Nice. Et déjà avec l'âge de 11 ans, 10 ans, mes parents m'ont envoyé pour être chez eux, pour essayer d'apprendre un peu le français et leur connaître et apprécier l'endroit.
Attendez, je vous interromps là, parce que vous étiez à Nice, parce que vous êtes né à Los Angeles, vous étiez en Amérique au début, et ensuite vous êtes, vos parents sont venus ici en France.
Non, pardon, je ne suis pas clair. Je suis né à Los Angeles.
Oui.
J'ai eu une tante et un oncle,
oui,
qui habitaient ici,
ah, voilà,
qui étaient,
d'accord,
sauvés pendant la guerre,
d'accord,
par,
oui,
un prêtre. Et mes parents ont voulu que je visite cet oncle,
oui,
que j'ai fait les étés. Je me souviens, je pouvais aller pratiquer le piano chaque jour, rue Médecin à l'époque. Et je suis même... Je suis venu souvent et je suis tombé absolument fasciné, amoureux de cet endroit. Les couleurs, les peintres, la littérature, tout ce que tu veux. Et j'ai acheté une maison, imaginez-vous, en 69,
mm-hmm,
à Cap d'Ail. Pourquoi j'ai eu assez d'argent pour ça?
Parce que vous aviez bien dirigé.
Non, pas encore. Non, j'étais assistant à Los Angeles et l'orchestre devait enregistrer un film qui s'appelait Counterpoint. J'étais assistant, mais celui qui devait diriger le film, dernier moment, est tombé malade. Il y avait beaucoup d'œuvres classiques. J'étais à l'aéroport. J'ai voulu aller à New York pour étudier, pour écouter les choses. J'ai eu du temps libre avec assistance de l'orchestre. Et je suis allé à l'aéroport et ils ont Lawrence Foster au téléphone, urgent, Lawrence Foster au téléphone. Et c'était le studio de Columbia. Vous êtes assistant de l'orchestre. Nous devons enregistrer 2 jours de musique classique les prochains 2 jours. Et l'orchestre demande que ça soit vous qui le faites. J'ai dit, j'étais totalement étonné et ils m'ont proposé, et là, ça s'appelle bien en yiddish chutzpah, ils m'ont proposé $6,000. Ça, c'est l'année 67. Un jeune, sans expérience, comme ça, assistant, et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, oui, très bien, je suis libre, je viens de faire ça. Je pense votre proposition, ça manque un zéro.
On comprend pourquoi vous avez acheté une maison à Cap d'Ail après.
Exact.
Ah ouais.
Et avec cet argent, j'ai pu acheter une maison d'un monsieur qui était un grand homme de Monaco, monsieur Georges Détaille. C'était...
Des photographes.
Le photographe,
la famille,
oui,
des photographes. Ah, oui.
Oui. On est devenus aussi très, très bons amis. Et j'ai, sur la plage Mala, j'ai acheté cette maison. Et je suis souvent venu là-bas, évidemment. Et j'étais là quand Monsieur Matačić, Maître Matačić, pardon, est devenu malade, et on m'a demandé si je peux remplacer. J'étais sur place parce qu'il était malade avec la première répétition déjà l'après-midi. Et le soliste, c'était le grand Gheorghe Ziffra.
Un grand pianiste. Hein,
et je me souviens, il a joué le concerto Grieg. Et l'autre œuvre était le Dvorak Nouveau Monde. Et le deuxième jour, parce qu'on pense toujours que ces choses, c'est avec influence, avec intrigue, avec des connexions, tout ça. Simplement, le lendemain, M. Katona, Tibor Katona, qui était le directeur avant René Croesi,
que nous avons connu, oui,
qui était un homme formidable, qui a échappé à l'Hongrie en 1956. Il est venu. J'ai une petite demande, Larry. Tu veux devenir directeur ici? Et ça m'a vraiment. Ça n'est jamais entré dans ma tête. Et j'ai répondu oui. Et je dois dire, à ce moment-là, l'orchestre n'était pas le niveau qu'il est maintenant, même assez loin. C'était bon, plein de bonne volonté, mais ce n'était pas l'orchestre d'aujourd'hui. Mais j'ai dit oui, et ma femme était furieuse. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu prends un orchestre de casino? Mais elle n'était pas musicienne. Alors, elle était convaincue rapidement que c'était une bonne chose. Et c'est comme ça que je suis directeur. C'était fait dans quelques jours.
L'opportunité.
Je devais attendre quelques mois jusqu'à le prince s'informer. Il a assisté même à une répétition. Et je me souviens, il m'a dit, oh, pas mal pour un jeune. j'ai commencé une bonne relation avec le prince Rainier, j'ai adoré.
Oui, ben c'était un grand protecteur des arts et de son orchestre.
Il y avait un événement avec lui que tout le monde était fier. Il a eu une interview, je pense que c'était Larry King, en CNN. Ouais. Et on a dit, de quoi vous êtes le plus fier de votre travail comme prince de Monaco? Et sans hésitation, mon orchestre.
Ah, ça s'applaudit. Ça, voilà. Ça, c'est... Ouais.
Il n'a pas répondu le football ou les bâtiments ou quoi qu'il soit. Tout de suite, mon orchestre. Et c'était très impressionnant, ça. Ouais. Alors, je suis resté ici assez longtemps. Les musiciens m'ont approuvé, il paraît. Je ne sais pas s'ils ont voté à cette époque. Probablement que non, mais... Ça passait très bien, sauf les moments, moi jeune, où quelquefois je pouvais perdre le pédale un peu et être un peu fâché aussi. Mais c'était une période formidable avec des concerts que je ne peux pas oublier. Sauf si vous me demandez de dire quel concert, je les oubliais. Mais pas tout.
Mais on aura le témoignage de musiciens là, qui sont dans la salle, que je vais interroger tout à l'heure sur votre parcours. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert officiel ici?
Ziffra.
Oui, mais alors ça c'était le concert, j'allais dire, en remplacement de Lvov Matačić. Après, votre premier concert, la première fois que vous avez dirigé en tant que directeur?
Non.
Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave.
Mais peut-être vous pouvez. Mais peut-être, pas sûr que c'était pas avec Barenboim qui jouait Brahms. Ouais. J'ai fait un programme avec lui dans les premières semaines, ça c'est sûr. Flûte enchantée, ouverture, concerto Brahms et le Jupiter de Mozart. Et après, ça a commencé d'avoir plusieurs. C'est noté là-bas, peut-être?
Non. Là, ce sont des disques. J'ai amené 2-3 disques que nous allons passer, que vous allez nous commenter.
Et on a cherché aussi avec Tibor Katona et éventuellement M. Croesi un projet d'enregistrement. C'était considéré à l'époque très important. Oui. Aujourd'hui, les CDs... J'étais à San Francisco, je ne pouvais pas trouver un seul magasin dans toute la ville de San Francisco où je pouvais acheter une machine tourne de disque, disons-nous, une machine qui jouait les CDs.
Oui.
C'est presque disparu.
Donc, tourne de disque, ça, c'est une expression qui ne s'en parle plus tellement.
Oui,
hein.
oui.
Oui.
Non, mais un CD player.
Oui.
Et ça a disparu. Mais oui, oui. Les CDs, c'est toujours une magnifique carte de visite. Et là, on a décidé de faire une série de disques dévoués. On a fait d'autres. Mon premier disque était avec Gabriel Tacchino.
Eh bien, le voici. Le voici. Et nous allons l'entendre.
Gershwin.
Et vous le commenterez. Voilà, ça tombe bien.
Timbalier ici,
mais c'était pas lui.
Pas pour ce disque. Pas si mal l'orchestre, quand même, c'était assez bien.
Ouais. Et je vous dis pas le chef. Désolé, mais on a encore des choses. Alors, Gabriel Tacchino, à qui on rend hommage, il est décédé il y a un an, enfin l'année dernière,
oui.
un magnifique pianiste de notre région, né à Cannes, qui a fait ses études au Conservatoire de Nice et puis qui a fait
grand musicien.
Hein. C'est vous qui aviez choisi le soliste ou c'est un hasard là pour
c'était
le...
entre moi et Monsieur Garcin.
Oui, de Erato.
Erato,
oui.
Qui était succédé éventuellement par un homme très controversé qui s'appelait Toscan de Plantier.
Ah, je me souviens.
Le producteur de films aussi, de fameux Carmen avec Julia Migenes. Mais ça, ce n'était pas avec Monaco. Mais Monaco a fait les opéras déjà, pas avec moi à l'époque, mais avec... Jordan.
Oui. Mais ce n'était pas après les opéras avec Jordan
vers cette époque.
Oui,
Incroyable
oui.
Parsifal.
Oui, avec, bien sûr.
Et d'autres, Pénélope, avec Charles Dutoit, très oui. jeune. Mais nous avons inauguré une idée d'un projet. On m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment qui n'est pas fait encore. Et j'ai choisi de faire un cycle de musique de Georges Enescu.
Voilà, il est évident que nous allions y parler, en parler.
Que
oui.
J'adorais, je fais toujours sa musique, mais un peu moins maintenant parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, inclus son grand opéra Édipe, qui a gagné, je pense, à l'époque, chaque prix qu'il existait.
Oui, tous les grands prix du disque à cette époque-là. Oui, absolument.
Oui, oui, tout, oui. tout. Et à l'époque, orchestre, on a eu un total de 20 répétitions ou 24. C'était tellement difficile. Oui. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas nécessaire une chose comme ça. Mais le résultat, c'est remarquable. José Van Damme, Fassbinder, Lipovšek, Nikolaj Gera, Barbara Hendricks, pas mal comme distribution. Oui, oui, oui. Et je me souviens, après ça, j'ai dit à ma femme, il faut que je prenne ma retraite maintenant, parce qu'après ça, je ne peux plus rien faire aussi bien que ça. Mais on a continué, on a fini les symphonies Enescu, sauf la troisième, qu'à l'époque, je n'ai pas compris cette œuvre-là. Et j'ai dit, je ne peux pas faire, je ne comprends pas la construction de cette symphonie. Et j'ai fait ça 10 ans après, avec, excusez-moi de le dire, avec l'orchestre de Lyon, qui était...
Bon.
Ah, oui, bon. Pas mal. Mais ce projet... pourquoi ce projet Enescu aussi? Quand j'étais jeune... Mon grand amour des compositeurs 20e, c'était Béla Bartók. Mm-hmm. Comme les Hongrois disent, Bartók Béla. Mais Bartók...
Il y a une chose que vous n'avez pas dit, c'est que vous êtes d'origine roumaine, vous-même. Vous n'avez pas...
Oui, mais pas... Oh, oui, mes parents
voilà.
venaient
ça,
de Roumanie.
C'est important.
Oui, oui, ils ont habité la ville Iași. Oui. C'est dans le nord qui était autrefois... le capital de Moldova, il y a 100 ans. Et ils ont été là et j'ai commencé d'apprécier Enescu parce que j'ai fait beaucoup Bartók et j'ai réalisé que tout le monde aime Bartók. Pas de problème. Mais Enescu ne s'est jamais joué.
Ouais.
Et le plus que j'ai étudié de l'affaire, j'ai réalisé que ils ont été de très grands amis. Ils ont même écrit une grande encyclopédie de musique folklorique de Transylvanie ensemble. Et j'ai dit, ça doit être assez intéressant, cette musique Enescu. Et j'ai commencé avec le disque que j'ai apporté même, avec les rhapsodies, que Enescu a détesté les rhapsodies. Parce que c'était tellement populaire, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'on joue que de ça
eh oui.
et pas ces grandes symphoniques.
Comme les danses hongroises de Brahms.
Un peu, oui. Un peu, oui. Et, mais on a fini ce cycle Enescu et c'est toujours disponible et je suis très content de voir que c'est...
Ouais.
Tout, je fais si souvent Enescu au concert que... Maintenant, je fais beaucoup moins. Il y a une chanson chantée par Johnny Cash. C'était un autre sujet. Il dit « I've done my time ». Et j'ai pensé avec Enescu, « I've done my time ». J'ai fait tout ce qu'on pouvait pour jouer sa musique.
Alors, effectivement, en venant ici, j'ai cherché dans ma discothèque...
Une chose.
Oui, je vous en prie. Vous êtes là pour parler. Hein.
On a été pour faire « Carmen ».
Oui.
À Bercy. Et j'ai utilisé 3 services pour faire les répétitions pour cet opéra Enescu. C'est vraiment une musique très étrange, même pour les mélomanes, mais pour les gens qui ne sont pas dans la musique. Alors, il y avait les gens qui nettoyaient, qui faisaient tout ce qu'il fallait. C'était un matin... Et ils ont été habitués qu'on joue Carmen toujours. Et ils ont vu tous ces musiciens et moi en faisant cette musique d'Édipe. Et ils ont vraiment, ils n'ont rien compris. Et même quelques m'ont dit, est-ce que je peux faire ça moins fort? Ça dérange beaucoup.
Mais... Je crois que vous y étiez, Jacques, à Bercy, là, absolument. Vous avez un souvenir, ça, vous pouvez un petit peu nous raconter. Vous avez participé à la répétition d'Oedipe, là ?
Oui, oui, bien sûr.
Bon, mais je viendrai vous interroger tout à l'heure plus longuement. Alors, j'étais en train de vous dire...
C'est notre ex-grand premier violoncelliste.
Violoncelliste, non, Jacques Perron, oui, absolument.
Avec sa fille qui joue aussi magnifiquement bien.
Ah oui, ben, qui lui a succédé. Et qu'il a succédé à ce poste de violoncelle solo. Donc j'étais en train de vous dire que je voulais venir aujourd'hui avec l'enregistrement d'Oedipe, parce que je savais, et je l'ai cherché partout dans ma discothèque, j'ai dû le prêter, enfin, je l'ai écouté plusieurs fois, mais j'ai dû le prêter à quelqu'un, et quelqu'un ne me l'a pas rendu. Donc je ne suis pas arrivé avec l'enregistrement d'Oedipe, mais je suis arrivé avec d'autres enregistrements d'Enescu, et en particulier celui dans lequel il y a les rhapsodies, je crois que c'est celui que je vais vous faire entendre maintenant. Oui, oui, mais je crois que c'est celui-ci. C'est ça ?
La première.
La première, absolument.
Oups.
Je vais interrompre ici.
À propos disque, je suis parti d'ici il y a assez longtemps, mais il y avait un moment, j'étais chez M. Didier de Cotigny, et il m'a proposé une idée assez intéressante, vraiment très intéressante, et on vient de finir ça. Je viens d'écouter les premières prises jusqu'à ce que je donne mes suggestions de perfectionner ici ou là. Et on a fait, pour prévoir l'année Benjamin Britten, et Didier, j'ai une autre idée de faire un autre disque, parce qu'il y avait une période libre de l'orchestre, mais il a dit de faire pour Britten. Et on a fait les variations, ou Young Person's Guide to the Orchestra,
Ah, c'est une œuvre pédagogique. Hein.
Ah oui, 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 magnifique. On a fait le Symphonia da Requiem. Ce n'est pas le Requiem de Britten. C'est une œuvre symphonique de 20 minutes, très puissante. Et les Illuminations. Et Didier a proposé de prendre Sandrine Piao. Elle devait venir et faire ça. Dernier moment, de bouger comme les choses avec les disques. Elle était très malade et nous avons enregistré tout l'accompagnement où elle devait faire un playback.
Ça alors?
À Amsterdam, je crois même maintenant dans 10 jours ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu très peur parce que je ne pouvais pas la suivre, évidemment. Je pouvais discuter un tout petit peu et elle va venir et chanter ça. Et je peux vous dire, elle m'a dit seulement hier qu'elle n'aura pas de problème. Didier, je te vois là-bas. Elle a voulu que je te dise aussi, elle n'aura pas de problème avec le playback parce que l'orchestre, c'est la pure perfection.
C'est pareil. Mais ça, ce sont des secrets que vous révélez en public. Là, je ne sais pas si. Bon, mais c'est quand même extraordinaire. Et ce disque, il paraîtra l'année prochaine, j'imagine.
Oui, dans quelques mois, j'espère.
Oui.
Mais les œuvres sont très virtuoses, très difficiles. Et je vois notre timbalier ici, c'est tellement important.
Alors lui, il a participé au Britain, là, oui.
Et après, j'ai fait aussi un disque avec Arabella Steinbacher,
oui.
des petites œuvres pour violon, pas petites œuvres, les œuvres courtes, pardon. Et c'était aussi un grand plaisir.
Mais comment expliquez-vous que des compositeurs comme Enescu, comme Britten, comme ça, ne soient pas tellement joués, moins joués que Bartok, comme vous disiez tout à l'heure? Comment ça s'explique, ça?
Oui, ça dépend. I mean, Britten, pour moi, est très, très joué en Amérique.
En Amérique, oui.
En Angleterre et en Allemagne.
Ah, oui, d'accord.
Beaucoup moins en France.
Ah oui, c'est ça, oui.
Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement attractif comme musique et communicative. Et Enescu, c'est différent. Enescu, c'est vraiment compliqué comme musique. Et il faut que quelqu'un, pour apprécier, doit écouter plus qu'une fois et avec les oreilles bien ouvertes, de suivre le contrepoint. Parce que le caractéristique d'Enescu, en comparaison avec Bartok, que j'adorais, Bartok, le plus important élément dans la musique, c'est le rythme.
Absolument.
N'importe quelle civilisation, n'importe quel pays, n'importe quel peuple peut répondre pour un motif rythmique. Pa-pa-pa-pam.
Oui.
Tu peux jouer ça
en
Philippines, en Afrique du Sud, n'importe où, il y aura une réponse.
Je me souviens de Paul Paré, dont on parlait tout à l'heure, et dont j'ai eu la chance et l'honneur de faire la dernière interview, 8 jours avant sa mort, me parler justement de l'importance du rythme.
Exactement. Oui. C'est universel. Oui. La mélodie, beaucoup moins.
Oui, oui.
Et Enescu a écrit beaucoup de contrepoints très compliqués. Ça veut dire beaucoup de mélodies en même temps, beaucoup de thématiques en même temps. Je ne parle pas de Rhapsody que vous avez écouté.
Mm-hmm.
Ça, tout le monde adore, c'est simple. Mais les autres choses, beaucoup moins. Même l'opéra, il y a 3 heures de ça. Et si on parle avec les musiciens de l'Opéra de Paris, ils ont eu assez mal de réaliser ça, qu'ils ont fait très, très bien à la fin. Mais avec Enescu, c'est ce qu'il manque, c'est un certain sens rythmique. Parce qu'il y a les mesures, oui. Et chaque mesure, disons-nous, c'est où, à 3 ou 4, ou même plus compliqué, mais il y a the bar line, où on est, pam, il y a le premier temps, toujours. Dans la musique Enescu, il y a des longues, longues passages où c'est impossible de deviner dans quel rythme c'est écrit.
Mm-hmm.
C'était arythmique.
Mm-hmm.
Et ce trait-là explique pourquoi ce n'est pas très populaire en comparaison avec Bartok, qui n'est pas si populaire que ça. I mean, si vous mettez ici, je vois Bartok, sauf avec une programmation avec beaucoup d'astuces, c'est une garantie de vider la salle un peu. Mais on peut vider la salle beaucoup plus si vous mettez Alban Berg ou Arnold Schoenberg.
Ça, oui, absolument.
C'est la garantie.
Alors, j'ai un dernier exemple, justement, de symphonie d'Enescu. C'est la symphonie concertante, je crois. C'est pour violoncelle et...
Oui.
Alors, je ne sais pas si ça va illustrer les propos que vous venez de tenir. Après, ben, on va arriver vers la fin de notre entretien. Je vous interrogerai sur quelques grands moments et j'interrogerai également les deux musiciens de la salle, Eliane et Jacques. Alors, je leur pose la question, finalement, leur souvenir d'orchestre avec Laurence Foster. Voilà, c'est la question. Un souvenir qui vous revient aujourd'hui à la mémoire de cette époque que vous avez vécue à l'orchestre. Alors voici la symphonie concertante d'Enescu. Le violoncelle, c'était Ormezovski.
Ormezovski. Le frère de Ormezovski de notre orchestre.
Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui.
Aussi violoncelliste. En écoutant, on ne peut pas placer la mesure, ça flotte.
Oui. Mais c'est très beau quand même.
Ah oui.
En m'excusant, hein, mais ben vous pouvez vous procurer le disque, hein, si vous voulez entendre la suite. Alors, cher maître, et puis nos deux musiciens, j'allais dire, vos grands moments de cette époque-là que vous aimeriez revivre, c'est toujours difficile, évidemment, de sélectionner les meilleurs moments, mais s'il y en a un ou deux qui vous arrivent en tête.
Je savais qu'on va me demander ça,
ah.
Et je n'arrive pas.
Eh oui.
Je me souviens...
Les grands solistes, par exemple, que vous avez accompagnés.
Les grands solistes, ça, c'est simple.
Oui.
C'était... On a eu vraiment presque tous les grands solistes. Oui. Il y avait Slava, il y avait Rostropovitch.
Oui, oui, on vous voit en photo ici, je crois, d'ailleurs.
Qui a dirigé un opéra aussi, qui a joué comme soliste. Il y avait Itzhak Perelman, Daniel Barenboim, Pinkas Zuckerman. Zuckerman revient assez souvent, il est très apprécié par l'orchestre. Et il y avait un pianiste à l'époque que j'adorais, mais je ne sais pas ce qui se passe avec lui. C'est très prometteur, Jean-Bernard Pommier.
Oui, 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 absolument.
J'ai beaucoup
oui.
aimé. Et
il a fait une carrière plutôt dans les pays de l'Est, enfin en Russie. C'est vrai, on ne l'a plus trop entendu.
Oui. Mais d'autres solistes, Isaac Stern.
Oui, bien sûr.
Non, il y avait beaucoup de grands solistes. Et quand vous dites les moments de se souvenir, peut-être c'était un moment triste.
Oui.
Mais le moment inoubliable pour moi, un moment inoubliable, était l'enterrement de la princesse Grace.
Oui.
où j'ai fait, j'ai dirigé toute la musique et j'ai proposé tout le programme. Et ça, c'était très émouvant. Mais de renverser le cas que aussi j'ai dirigé toute la musique pour le mariage du prince Albert. Évidemment, c'était la musique était un peu plus heureuse. Et on a même joué une œuvre parce que j'ai fait pas mal de crossover et je suis devenu assez ami avec Paul McCartney. Et j'ai fait 3 disques, pas avec lui, mais où il a composé les choses pour orchestre symphonique. Et là, il y avait une très belle œuvre, la fin d'une œuvre pour les chœurs qui s'appelle Celebration. Et on a joué ça aussi à ce moment-là. Et Paul devait venir, mais au dernier moment, il n'a pas pu.
Ben voilà, effectivement, deux grands et beaux moments. Et si j'interroge les musiciens, là, Jacques...
J'ajoute quand même...
Votre grand souvenir...
Permettez-moi...
Ah, j'ajoute, pardon. Oui.
Mais on a mentionné, mais c'est impossible pour moi d'oublier la dernière séance après les plus que 20 répétitions et 11 séances ou 12, le moment à la fin où le producteur a dit « Larry... We've got it. » C'était la fin de l'enregistrement Édipe.
Ah oui. Et vous revenez toujours à cet enregistrement d'Édipe qui a marqué votre carrière. Là.
Oui. C'était le plus haut moment pour moi de ma carrière, oui.
Merci beaucoup. Alors, je vais interroger Jacques et Eliane. Là, le beau moment avec Laurence Foster.
C'est très difficile. Comme vous l'avez dit, 14 années de concerts, plus les concerts en tant que chef invité, donc des souvenirs, il y en a énormément. Moi, et pour différentes raisons d'ailleurs, il y en a pour des raisons purement musicales, il y en a pour des raisons plus globales, mais pour détacher quelque chose, moi j'ai un souvenir fantastique de Carmen à Bercy, parce que Teresa Berganza et puis la mise en scène, on parle maintenant de faire des concerts un peu spectacle pour attirer le monde et tout, mais à l'époque... C'était un spectacle qu'on a fait pendant 3 semaines, qui était merveilleux. Et puis, c'est un souvenir inoubliable. Et près des émotions musicales avec Zuckerman, justement, je me souviens d'un concerto de Dvorak, remarquablement accompagné, parce qu'on ne parle pas du rôle de chef d'orchestre accompagnant les solistes. Mais là, Maître Foster excellait dans ce domaine-là. Et je crois que Zuckerman, ce jour-là, enfin... Moi, personnellement, il m'a ému à un point terrible parce qu'il devait être très, très libre de faire ce qu'il voulait, parce qu'il était magnifiquement accompagné. Donc voilà, il y a des souvenirs comme ça qui restent dans la mémoire.
Merci beaucoup, Jacques. Et je crois que vous avez insisté sur quelque chose qui est capital, effectivement, l'habileté à accompagner tout le monde dans le milieu musical, dans le monde musical, vous félicite pour la souplesse avec laquelle vous accompagnez les solistes.
Je ne sais pas pourquoi, sauf...
C'est comme ça.
Pas si simple que ça, peut-être. J'ai toujours, même quand j'étais jeune, j'ai appris tous ces concertos. Oh, je ne pouvais pas les jouer vraiment très bien. Mais j'ai pensé, un jour... sera une bonne chose si je connais ces concertos vraiment presque par cœur, de point de vue soliste. Mais psychologiquement, le secret pour accompagner un grand soliste, c'est qu'il faut se mettre dans sa tête.
Ah oui.
Il faut comprendre émotionnellement d'où il vient et quelle est sa conception. Pas de point de vue tempo, tout ça, mais de point de vue ambiance,
c'est bien ce que vous dites,
couleur.
Là, oui.
Et si vous pouvez faire ça, quand je vais faire dans moins que 3 semaines une fois le concerto de Brahms, une fois avec Henrik Schering, et l'autre fois avec Ivry Gitlis, je vous assure, c'était différent quand vous ne pouvez pas savoir.
Si j'imagine. Oui.
Mais je n'ai pas suivi, mais j'ai essayé de me mettre... dans le cœur et dans la tête de tous les deux, de sharing avec cette rigueur incroyable, cette perfection, et Ivry avec cet aspect tzigane incroyable. Et si on peut faire ça, vous pouvez mieux accompagner.
Ah, ça, c'est magnifique ce que vous dites là. C'est une belle leçon de direction d'orchestre. Là. Oui, absolument, se mettre dans la tête du soliste. Et est-ce que vous êtes arrivé d'avoir des solistes qui ont une défaillance, un trou de mémoire ou vous êtes arrivé d'avoir en concert des solistes qui ont eu un trou de mémoire, qui se sont trompés, qui... Non.
Pas vraiment, j'aimerais dire que oui, mais ce n'est pas le cas. Mais il y avait, si tu as quelques... 3 minutes extra.
Oui. Nous les avons, oui.
Le plus drôle moment de ma vie,
oui.
Mais c'est, à l'époque, ce n'était pas drôle. Il y avait un grand compositeur anglais, Alexander Gurr, le fils d'un grand chef, Walter Gurr. Mais Alexander Gurr a écrit un concerto pour piano pour Daniel Barenboim.
Oui.
Très super compliqué. C'était... Il m'a envoyé... J'étais à l'époque directeur à Houston... Il m'a envoyé le premier mouvement et la moitié du deuxième mouvement, les partitions. Une écriture impossible. Je devais, normalement, je ne marque rien dans mes partitions, presque rien. Comme Otto Klemperer a dit, il faut lire la musique. Mais là, j'ai marqué tout parce que je n'ai rien compris de son écriture. Mais je savais qu'on va m'envoyer la deuxième partie. Alors, j'ai préparé la première répétition, la première partition, bien, et j'attendais la deuxième partition qui m'est arrivée dans le poste. Alors, j'ai décidé, j'utilise une partition pour le premier mouvement. Après, je change les partitions et je fais le reste avec l'autre partition que j'ai tout marqué. N'oubliez pas, le premier partition a eu le premier mouvement, mais une bonne partie du deuxième mouvement. Au concert, à la première, à Brighton, je tourne la page, j'ai oublié de changer les partitions. Et même si j'avais une bonne mémoire, ça par cœur aurait été impossible. J'ai eu... Page blanche devant moi.
Aïe, aïe, aïe.
Et je connaissais assez bien l'orchestre, mais c'était un moment de panique, je ne savais vraiment pas. Et normalement, à l'époque, surtout maintenant, je suis plus souple, mais à l'époque, j'étais un peu raide dans ma direction, un peu assez précis, mais même trop. Mais j'ai commencé de diriger comme ça. Et j'ai aucune idée. Et j'ai réalisé, j'ai eu un grand ami, Philippe, trompettiste, et j'ai fait un geste à lui. Et l'orchestre, c'était un grand crescendo qu'il devait faire, mais c'était le meilleur diminuendo jamais, parce que les gens se sont arrêtés à jouer. Alors, j'ai monté mon trompette, j'ai pris, joue quelque chose. J'ai fait le geste. Il a compris. Alors, quelqu'un d'autre a compris. Et j'ai fait, si vous avez vu Danny Kaye, j'ai fait une sorte de Danny Kaye avec le reste et avec les cordes, j'ai commencé je me suis même amusé parce que ça n'a eu rien à faire avec l'œuvre, rien. Mais le violon, j'ai commencé de ça. Je regrette de dire, à mon avis, ça sonnait aussi bien que l'original. Mais le mieux de tout ça, à la fin, il y avait Festival Hall, toujours un premier rang où il y avait toutes les critiques. Excusez-moi.
Oui, d'accord, oui, je vous en prie.
Et ils sont venus pour les premières avec les partitions. Alors, ils ont réalisé que ce qu'ils ont regardé n'a eu rien à faire avec ce que se sortait. Oui. Alors, mais il n'y avait aucun qui a voulu montrer à l'autre qu'il ne savait pas c'est ce qui se passe. Alors, une après l'autre, lentement, ils ont, avec beaucoup d'autorité, ils ont fermé les partitions en faisant geste que, ah, maintenant on va seulement écouter. Mais ils ont été totalement perdus. Et heureusement, M. Goehr a eu un grand sens d'humour. Il a dit, mais au moins on va jouer ça à Londres dans 3 jours. Et peut-être tu vas utiliser la musique que je t'ai envoyée. Mais c'était un moment, ce moment, jamais que je peux oublier, quand j'ai tourné la page, ouais. Et il n'y avait rien devant moi.
Oh là là, un moment de panique. Merci pour cette anecdote. Alors, alors je vais demander à Eliane, là, votre souvenir, un souvenir avec Laurence Foster de...
Ouais. Des périodes
délicieuses. Oui, bien entendu.
14
oui.
années de travail avec Maître Foster. Oui. C'était vraiment les meilleures années d'orchestre de ma vie. Et les tournées que nous avons fait ensemble.
Vous avez entendu
en Allemagne,
les meilleurs moments d'orchestre de sa vie.
Parce que c'est un chef qui travaille vite et bien et qui arrivait toujours prêt et qui comptait sur nos préparations à nous aussi. Donc ça se passait toujours dans de très bonnes conditions.
Ben, écoutez, merci. Alors là.
Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une ou deux questions dans le public, peut-être, à Maître Foster, parce qu'on est arrivé vraiment au bout de notre heure. C'était tout à fait passionnant.
Oui. Une anecdote.
Ah, mais bien sûr, on est là
Écoutez,
pour ça.
Écoutez, après 60 ans de carrière, on peut avoir. J'étais à Gulbenkian. On a fait une tournée. On est allé en Roumanie. On a fait 2 très bons concerts. Et après, il y avait une grande réception où tout le monde buvait jusqu'à 5 heures du matin avec le bus à 8 heures, mais ça a dérangé personne. C'était formidable, avec musique tzigane, tout ce que vous voulez. On est rentré à Lisbonne, quelques jours de repos, et après, je dois te dire, c'était une œuvre contemporaine où j'étais pas très bien préparé. C'est rare, mais c'était comme ça. Et l'orchestre était un peu nerveux. Ça se passait très mal, la répétition. Ouais. Et moi, parce que je n'étais pas même sûr de moi-même avec la musique, j'étais aussi énervé de moi-même. Mm-hmm. Mais j'ai vu agitation dans l'orchestre. Et là, j'étais fâché comme rarement dans ma vie. Ils ont parlé un peu. J'ai vu quelques papiers qui sont allés ici par là. On dit en français, j'ai perdu le pédale.
Oui, oui, on dit, oui.
Quand c'est extrême. Oui. J'ai pris ma partition, j'ai jeté ça dans la salle. Je suis parti avec quelques bons mots en anglais qu'on ne peut pas répéter. Je suis allé dans ma loge et j'ai dit, go home, I don't ever see you again. Ridicule, absolument absurde. C'est les délégués. J'ai dit, well, what do you want? Prenez, on va vous expliquer. Pas d'explication, go to hell. Prenez ça. Qu'est-ce que c'était? Ils ont tous voulu, avant la fin de répétition, être sûr de signer une lettre d'appréciation pour la tournée et tout ce qu'on a fait ensemble. Évidemment, personne n'est parti. Je suis rentré sur la scène et si un chef pouvait avoir une leçon, quelle leçon c'était? Je me sentais toutes les émotions imaginables. Et la première chose, j'ai dit, I think you're probably at this moment l'orchestre le plus heureux du monde. Ouais. Parce qu'ils m'ont eu. Hein? Et comment? Mais avec ça, ça c'était aussi un moment inoubliable. Et après, on a bien travaillé. Mais ce moment de partir comme ça et de lire ce que c'est, pourquoi c'était agité un peu, j'ai eu honte. Honte, comme c'est pas possible.
Écoutez, Germaine, merci de vous être livré à nous comme ça, vraiment. On était... Alors, voilà. Oui.
Puisqu'on a mis à l'avant, bien sûr, les qualités d'un maestro exceptionnel, il y a le côté humain de Larry. Notre premier gala, notre premier concert, on l'a organisé avec Larry et Maxime Vengero. Donc, je demandais à Maxime...
Beethoven.
Wow. Quelle mémoire, on l'a compris. Beethoven. Eh bien, je demandais à Maxime, quelle date tu peux venir? Voilà, bien sûr, à titre gracieux, on était une très jeune association, je parle d'il y a 24 ans. Il m'a donné la date et il m'a demandé, bien sûr, quel chef as-tu en tête? Je dis, premièrement, Larry Foster. Il m'a dit, magnifique. Parce que bon, parfois, les solistes n'aiment pas travailler avec un chef ou un autre. Je dis, est-ce que ça te convient, Maxime? Il m'a dit, absolument, sache que ce n'est pas uniquement un excellent chef d'orchestre, c'est un immense connaisseur. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Eh bien, j'appelle Larry et je lui dis, voilà, Maxime, on veut organiser notre premier concert. Maxime m'a donné cette date. Est-ce que tu peux diriger? Bien sûr, gracieusement. Il regarde son agenda, il me dit, je dirige la veille. Je ne me rappelle, voilà, je n'ai pas ta mémoire, je ne sais plus, mais c'était bien loin. Évidemment, quand il a entendu le silence à l'autre bout du fil, il s'est dit, la pauvre, son monde s'est écroulé. Il m'a dit, mais bien sûr que je vais diriger. Je dis, comment est-ce que tu vas diriger? Tu diriges la veille. C'était Toulouse, c'était où, Larry? Peut-être toi, tu te souviens où tu dirigeais la veille. Il m'a dit, c'est pas grave. Je dis, je t'envoie une voiture. Il m'a dit, bien sûr, tu m'envoies une voiture et tu me mets un oreiller dans la voiture. Il a quitté après le concert, il a roulé toute la nuit, dormi sur mon oreiller et il est venu diriger l'orchestre pour notre premier concert, le premier concert de l'association. Merci encore, Larry.
Plus de questions, plus de remarques. Ben écoutez, on vous remercie énormément, vraiment. Vous nous avez charmés, vous nous avez donné une leçon de direction d'orchestre aussi par certains aspects, et vous vous êtes livré à nous comme à des amis, et on vous remercie beaucoup.
Merci à tout le monde d'être venu. Merci.